Chapitre 5. Depuis qu'elle était à Cordes, elle rencontrait sans cesse sur son chemin un petit vieux d'une soixantaine d'années qui semblait vouloir l'aborder comme s'il avait quelque chose de mystérieux à lui dire. Bien souvent, elle l'avait aperçu dans l'église, non pas qu'il assistât à la messe, mais se rendant à la sacristie, à pas glissés, avec des génuflexions de prêtre ou de sacristain, toutes les fois qu'il passait devant le sanctuaire. Presque tous les jours aussi, elle l'avait vu devant la maison de Guillaume de Puylaurens, et bien évidemment, ce n'était ni l'attique, ni les frises de la façade, ni les archivoltes qui le retenaient, car ou bien il marchait la tête basse, ou bien il causait avec quelques voisins, en homme qui attend. Plusieurs fois aussi, elle l'avait aperçu rôdant le long des grilles du château, et l'endroit était d'autant plus mal choisi pour s'y promener qu'on enfonçait dans la poussière et que la réverbération du soleil contre le mur produisait une chaleur infernale. Chaque fois qu'elle le rencontrait, il se tournait vers elle, il la regardait obstinément, et s'il ne la saluait pas, au moins s'inclinait-il à demi, se prenant le menton, frottant son gilet, se mouchant, toussant, faisant des « qui n'en finissaient pas, enfin, tout le manège d'un homme qui veut se faire remarquer, mais qui a peur qu'on le surprenne. Elle en avait presque peur. Était-ce aussi un ennemi mystérieux, un allié d'Adélaïde ou des sœurs, un espion? Elle était d'autant mieux disposée à voir en lui un ennemi qui lui était antipathique. Elle le trouvait grotesque et de mine inquiétante. De petite taille, rondelé, grassouillé, les jambes arquées, les pieds énormes dans des souliers plats lacés sur des bas noirs, il était toujours vêtu de drap noir également, une redingote longue à petits boutons, un gilet fermé jusqu'à la cravate, un pantalon trop court, tout cela râpé, lustré, graisseux, le visage rasé et blême, les cheveux d'un gris sale frisant sur le col de la redingote. Avec cela, un air éveillé, pétillant et patelin à la fois. En tout, un personnage qui était une énigme pour elle et qu'elle n'arrivait ni à définir ni à caser. Un monsieur, un pauvre diable, elle n'en savait rien. Un jour, qu'en sortant de la maison de Guillaume de Puylaurens, sa tante et elle s'étaient presque jetées dans lui et qu'il les avait saluées sans que mademoiselle de Puylaurens parût le voir, elle s'enhardit à demander enfin quel était ce monsieur. « Un malheureux, mon enfant !» répondit mademoiselle de Puylaurens, d'un accent à la fois désolé et indigné. « Ne me parle pas de lui !» Il n'y avait pas à insister, mais sa curiosité n'en avait été que plus vive. « Un malheureux !» Si c'était un malheureux, comment mademoiselle de Puylaurens ne voulait-elle pas qu'on lui en parlât, elle qui venait en aide à tous les malheureux, avec une inépuisable charité? Qu'avait-il donc fait? Un criminel, sans doute. Une lettre qu'elle avait reçue de sa mère à ce moment même avait encore excité sa curiosité. « Ton père me charge de te dire, écrivait Madame de Mussidan, que tu dois veiller attentivement sur toi, sur ta conduite et tes paroles. Ton installation auprès de ta tante a dérangé des convoitises et, par là, elle t'a attiré des inimitiés. On cherchera à te nuire. Tiens-toi donc sur tes gardes. Et ce qui peut être encore plus utile avec ton inexpérience de la vie et des hommes, écoute les conseils des personnes bienveillantes qui peuvent te tracer ta route et l'éclairer. Comprends bien cela et ne l'oublie pas. » Comprends cela, c'était là le difficile pour elle. Ce qu'elle comprenait, c'est que ce n'était point le style de sa mère qui n'écrivait point de cette façon. C'était son père qui avait dicté ce passage en mettant en pratique la maxime qu'il lui avait donnée, qu'une lettre est un oracle et qu'il faut qu'on puisse lui faire dire oui ou non selon l'intérêt du moment. Il avait réussi. Cette lettre était un vrai oracle. Sans doute, il pouvait lui faire dire ce qu'il voulait. Mais pour elle, par malheur, elle ne savait comment la traduire. Où étaient-elles les personnes bienveillantes qui devaient lui tracer sa route et l'éclairer? Quelles étaient-elles? Cela la faisait toujours tourner autour des mêmes questions, sans avancer, car si les lettres qu'elle recevait de Paris étaient, par prudence, rédigées en style d'oracle, celles qu'elle écrivait elle-même se tenaient aussi dans la même réserve. Pour tout ce qui était insignifiant, elle bavardait librement. Mais pour tout ce qui avait ou pouvait avoir de la gravité, elle pesait ses mots, ne sachant même pas si ce qui lui paraissait innocent n'était pas au contraire dangereux. Elle ne les mettait pas elle-même à la poste, ces lettres, mais elle les déposait dans un casier placé à l'entrée du vestibule, où Adélaïde les prenait pour les faire porter, et il fallait se défier d'Adélaïde. Quel parti ne pourrait-on pas tirer contre elle d'une lettre dans laquelle elle aurait parlé franchement, si cette lettre était lue ou interceptée? De même qu'on pouvait ne pas lui remettre une lettre de sa mère, de même on pouvait garder une de celles qu'elle déposait dans le casier. Si cela se produisait, qu'arriverait-il? Sa situation était déjà bien assez difficile sans qu'elle l'aggravât encore par des imprudences ou des maladresses. Un jour, peut-être, son père se déciderait-il à rendre ses oracles plus clairs. En attendant, elle pensait souvent à son vieux bonhomme crasseux, non seulement quand elle l'avait rencontré, mais encore quand elle ne le voyait point. Était-il parmi les personnes bienveillantes dont lui parlait son père, ou bien était-il parmi celles dont elle avait dérangé les convoitises? Comme elle agitait cette question, un dimanche, dans l'après-midi qu'elle avait été s'asseoir au bord de la rivière, tout à l'extrémité du jardin, où un petit bois de magnolia et le voisinage de l'eau entretenaient toujours une certaine fraîcheur, elle aperçut son bonhomme assis sur la berge et pêchant, ou tout au moins faisant semblant de pêcher. La rivière tournant là brusquement, elle le voyait presque de face, bien qu'il fût sur la même rive qu'elle. Comme la distance était assez grande, elle s'était assise à sa place habituelle sans s'inquiéter de lui. Il avait bien le droit de pêcher à la ligne, sans doute. Et d'ailleurs, il ne semblait pas homme à se mettre à l'eau pour venir jusqu'à elle. Au moins, était-il homme à vouloir se faire remarquer lorsqu'il l'eut aperçu? Et franchement, cette fois, non plus avec hésitation, il la salua tout bas. Elle fit semblant de ne pas le voir et resta à sa place sans bouger. Alors, il tira un papier de sa poche et le lui montra. Il n'y avait pas à se méprendre sur sa pantomime, il voulait lui remettre une lettre. Elle baissa la tête un peu plus et ne le regarda que sous le bord de son grand chapeau de paille. Son premier mouvement avait été de se sauver, mais à quoi bon? À pareille distance, elle n'avait rien à craindre de lui, en supposant qu'il fût à craindre. Bientôt, elle vit qu'il abandonnait sa place et elle ne l'aperçut plus. Sûrement, il avait renoncé à son idée de lettre. Tranquillisée, elle se mit à penser à cette lettre. N'était-ce pas étrange, invraisemblable, inexplicable au moins? Tout à coup, elle le vit surgir au bout du mur du jardin. Il avait suivi le lit de la rivière, dont les eaux étaient basses, et de temps en temps, il sautait de pierre en pierre, se soutenant sur sa ligne pour ne pas tomber. Vivement, elle se leva pour se sauver, mais il comprit son mouvement, et se haussant sur la pointe des pieds, « C'est doux » criait-il. « C'est moi, c'est doux !» Ce nom l'arrêta. Elle le connaissait et 100 fois elle l'avait entendu. C'était celui de l'homme qui tenait son père au courant de ce qui se passait chez Mademoiselle depuis Laurence. Comment n'avait-elle pas deviné que ce petit vieux qui la poursuivait était c'est doux ?« J'ai à vous parler, » disait-il. « Approchez !» Il avait baissé la voix et la ligne à la main, il semblait pêcher, comme si c'était à la poursuite du poisson qu'il était venu jusque-là. Elle regarda autour d'elle et ne vit personne, ni dans le jardin, ni de l'autre côté de la rivière. Aucun bruit, si ce n'est celui de l'eau clapotant sur les cailloux. « C'est de la part de votre père !» continuait Cédou. C'était donc là ce que son père avait voulu lui dire. La personne bienveillante qui devait lui tracer sa route et l'éclairer, c'était Cédou. Alors, elle devait l'écouter. Au lieu de rentrer dans le bois de magnolia, elle s'avança vers la rivière, dont le lit venait jusqu'au mur qui soutenait les terres du jardin. Ses doux étaient là, en contrebas, perchés sur 2 grosses pierres, pêchant avec une attention exagérée. « Écoutez-moi bien, dit-il, je vais parler sans me retourner, afin que, si on nous voit de loin, on ne devine pas que je vous parle. Vous n'avez donc pas compris mes signes ?» « Non. La faute en est à monsieur de Mussidan, qui aurait dû vous prévenir avant votre départ. Mais j'espère qu'il est temps encore de réparer cette faute. Vous êtes-vous livré à mademoiselle Adélaïde ?»« Comment livré ? Est-elle votre confidente ? A-t-elle gagné votre confiance ? Lui demandez-vous conseil ?»« Non, jamais. »« Eh bien, défiez-vous d'elle. »« Pourquoi ? parce qu'elle est dévouée à votre frère Frédéric et qu'elle voudrait lui faire avoir l'héritage de mademoiselle de Puylaurens. Elle est votre ennemie et fera tout pour vous perdre dans l'esprit de votre tante. Et la mère Alfredi, la sœur Irmine, comment êtes-vous avec elle ?»«
Je crois qu'elle ne m'aime pas, mais je ne sais pas pourquoi. »
Parce qu'elles aussi visent l'héritage de votre tante et que votre présence menace leurs espérances. Elles sont aussi vos ennemies. Tenez-vous donc en garde contre elles, autant que contre mademoiselle Adélaïde. J'avais préparé cette lettre pour vous expliquer tout cela. Prenez-la. » Il la jeta dans le jardin. « Maintenant, je me sauve, dit-il, quand vous aurez besoin de moi, quand vous serez embarrassé, ou bien quand vous voudrez écrire à votre père librement, faites-moi signe. Votre mouchoir à votre main gauche, par exemple, et le lendemain, vous me trouverez ici. »